Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette de retrouver la trace des coupables. En décembre 1987, Isabelle Laville disparaît sur le chemin qui la ramène du lycée dans la banlieue d'Auxerre. C'est une jeune fille discrète de 17 ans. La famille remue ciel et terre, tout le monde se mobilise, jusqu'aux stars du club de foot dirigé par Giroud. L'enquête va vite s'arrêter avant d'être relancée par les arrestations successives d'Émile Louis et de Michel Fourniret, deux hommes qui se révèlent être des tueurs en série.
Le 10 juillet 2006,
20 ans plus tard,
pratiquement au fond du fond du fond du puits,
Alain Hamon, journaliste et auteur de « Bonjour, on vient pour l'affaire ».
Les gendarmes et le puisatier privé disent « il y a quelque chose ». Ils trouvent des ossements, ils trouvent des fragments de vêtements et ils trouvent une paire de bottines. Je ne dirais pas que j'ai mes fantômes avec moi qui m'accompagnent. Mais en revanche, il m'arrive encore aujourd'hui de faire des cauchemars et de me réveiller en pensant à tel moment de notre enquête, à telle horreur de l'histoire.
Ce département est un département, comment dire, rural.
Pierre-Jules Gay, ancien journaliste à Lyon Républicaine.
Pauvre, modeste, un peu verrouillé, un peu fermé, taiseux, profondément taiseux. Je ne parlerai pas d'omerta, mais c'est un peu l'ambiance générale.
Mon mari, travaillant dans des grandes surfaces, a été muté là-bas, au printemps 86.
Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle.
Je n'étais pas à l'aise dans cette région. Une question d'atmosphère. C'était un vendredi. Et Isabelle était vraiment très régulière. Elle arrivait à 16h50, 55 au plus tard. Donc, quand à 17h, elle n'était pas là, j'ai attendu un petit peu, 5 minutes, et après, j'ai fait le trajet jusqu'au collège pour voir si je la trouvais. Et là, il y avait quelqu'un, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tout le monde est sorti, tout ça. Alors, il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, ben écoutez, ma fille n'est pas rentrée. Il m'a demandé qui elle était. J'ai dit Isabelle Laville. Ah ben, il a dit, si, je l'ai vue sortir. J'ai refait le trajet 2, 3, 4 fois. Ensuite, j'ai appelé l'hôpital. J'ai appelé les amis qu'on avait sur place, enfin les relations et amis qu'on avait sur place. J'ai appelé aussi ma famille, j'ai dit si jamais Isabelle vient chez vous, mettez-moi au courant. Ça a été le choc pour tout le monde.
Dès que j'ai entendu maman au téléphone, j'ai de suite compris. J'ai pensé à ma sœur.
Sandra Laville, sœur d'Isabelle.
À la seconde après. Mais je ne savais pas ce qui s'était passé tout, mais je l'ai ressenti.
Bien sûr, j'ai appelé le commissariat qui m'a répondu que c'était une adolescente, elle faisait la fête avec ses amis. Notre amie que nous avions là-bas connaissait quelqu'un à la gendarmerie. Et donc, eux, ils ont commencé à chercher, mais non officiellement, puisqu'il faut attendre un certain temps avant de faire des recherches. On a laissé la lumière extérieure allumée toute la nuit, au cas où elle rentrerait. Elle n'est pas rentrée.
On a reçu un appel de la famille qui s'inquiétait de ne pas voir rentrer cette jeune fille.
Guy Drouot, ancien gendarme.
Donc automatiquement, l'équipe s'est rendue sur place.
Le lendemain matin, ils sont venus, ils ont posé des questions, ils ont fouillé la maison.
Donc on a effectué les premières recherches, surtout qu'on avait tous les éléments, le signalement, l'habillement, qui ont été transmis par l'autre patrouille. Alors après, on a eu des éléments comme quoi elle portait un cartable ou un sac. Alors là, on a recherché si éventuellement dans les fourrés, partout en descendant, si éventuellement ce sac, on le retrouvait.
Quand ils ont fouillé le petit bois, ils ont trouvé beaucoup d'affaires scolaires, etc. Donc chaque fois, ils me le montraient, je dis non, c'est pas elle, non, c'est pas elle.
Les premières choses à faire, c'est recueillir le maximum d'éléments, parce qu'il peut s'agir d'une fugue, il peut s'agir d'une histoire amoureuse, elle n'est pas rentrée à l'heure parce qu'elle était restée chez un copain, chez une copine, ou n'importe. Et puis, ça peut être une fugue, ça peut être n'importe quoi, là, à ce moment-là.
Non, non, non. Mais pourquoi elle aurait fugué ? J'allais fêter mon anniversaire, sa sœur allait arriver pour les vacances de Noël, elle n'avait aucune raison de fuguer. Je lui ai dit, mais vous ne connaissez pas ma fille ? Vous savez, c'est gravé dans mon esprit, cette journée. J'ai dit, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne la connaissez pas.
C'est une famille de gens bien. Monsieur Laville, il était directeur d'un petit hypermarché.
Alain Bert, avocat de la famille Laville.
Madame Laville élevait les enfants qui sont bien élevés, qui vont à l'école, qui ne se font pas remarquer. Une famille discrète.
Et avec ma sœur, on parlait souvent tous les soirs. Quand elle n'allait pas bien, j'étais là, je la soutenais, je lui expliquais certaines choses qu'elle ne comprenait pas. Je jouais mon rôle de grande sœur et de psychologue en même temps.
Elle n'était pas introvertie, mais presque. Elle était hypersensible. Par contre, en famille, elle était à l'aise.
Elle adorait la musique, les chansons.
On chantait souvent ensemble, le temps des cerises. Je peux pas... Je ne peux pas entendre cette chanson sans pleurer.
Le temps des cerises est guère au Seigneur et meurt le moqueur.
Compte tenu de la personnalité d'Isabelle Laville, l'hypothèse de la fugue est vite écartée. C'est maintenant celle d'une mauvaise rencontre qui est privilégiée. Qui Isabelle a-t-elle pu croiser sur ce petit chemin qui longe la forêt ? Pour la retrouver, toute la région se mobilise.
Je l'amenais et je la cherchais à l'école. Et un des professeurs avait dit, il faut lui laisser un peu d'air, il faut lui laisser de l'indépendance. Donc je l'amenais, mais je ne la cherchais pas, je ne la cherchais plus. Je me le suis assez reproché par après.
On sentait vraiment que ce n'était pas le comportement habituel de la jeune fille de ne pas rentrer à l'heure, d'aller chez des copains sans prévenir ses parents et autres. Ce n'était pas du tout ça. Donc c'est pour ça que pratiquement dès le départ, c'était une affaire, pour nous, une affaire très sérieuse.
Une adolescente disparue à Auxerre, cette collégienne Isabelle Laville.
Isabelle Laville, 17 ans, que l'on n'a pas revue depuis le 12 décembre dernier.
Le 12 décembre 1987, il y a une dépêche de l'AFP qui est tombée.
Alain Hamon, journaliste et auteur de « Bonjour, on vient pour l'affaire ».
Qui signalait qu'il y avait une jeune fille qui avait disparu. Et moi, il se trouve que je m'occupe beaucoup de faits divers à RTL. À cette époque-là. Nous, journalistes, on s'intéresse pendant ces jours-là à l'histoire parce que les recherches prennent une certaine ampleur quand même. Il y a des battues avec des gendarmes mobiles, il y a un hélico de mis en l'air pour voir, parce qu'il y a la forêt d'Hôte, pas loin de l'endroit où ils habitaient.
On a fait des fouilles, on a fait des ratissages derrière dans ces fameuses, dans ces fameux bosquets, ces bois, ces jardins, ces autres. On a pris contact avec les quelques voisins qui sont limitrophes de ce trajet. sans obtenir aucun renseignement.
Je savais que si elle ne rentrait pas, c'était qu'elle ne pouvait pas. Mais en même temps, il y a l'espoir qui reste. L'espoir que c'est, qu'elle va pouvoir rentrer parce qu'elle s'est enfuie, parce que, ou que quelqu'un l'avait retrouvée. Ou...
On pense à un enlèvement, on pense à... je sais pas, moi, elle était prise en charge par quelqu'un, on sait pas.
Les gens, non seulement, sont tristes, et puis, une disparition d'enfant, ça laisse toujours penser que, éventuellement, ça sera peut-être pas la dernière, qu'il y en aura une prochaine, etc. Donc, les parents de jeunes filles du même âge se posent des questions, etc., etc.
Jeune fille de 16 ou 17 ans qui disparaît et qui ne réapparaît pas dans les jours qui suivent, c'est quand même assez inquiétant.
Pierre-Jules Gay, ancien journaliste à Lyon Républicaine.
On se fait la réflexion avec mon épouse que ça aurait pu arriver à une de nos filles.
Il va y avoir une mobilisation populaire autour de la disparition d'Isabelle pour essayer de la retrouver, même au travers du club de football d'Auxerre, qui était dirigé à l'époque par M. Giroux, qui va s'investir personnellement.
À Auxerre, tout le monde s'est mobilisé, et c'est le club de football bien connu qui en a été le moteur.
Giroux est venu nous proposer de faire un reportage avec ses trois footballeurs vedettes, parce qu'il dit, les jeunes footballeurs, c'est quelqu'un de leur âge, et ça les a touchés profondément.
Les joueurs de la JOCR ont décidé de tenter une action pour retrouver Isabelle, disparue depuis plus d'un mois.
Si des personnes donnent des indices décisifs, ils seront tous récompensés par des chèques importants et le financement de cette somme sera donné par un match que nous jouerons ici.
Il y a eu quelques pistes, mais comme d'habitude, il y a toujours des intéressants qui se présente en ayant cru la voir ou cru voir ceci ou cela. Bien sûr, toutes les pistes sont vérifiées. Elles tombent à l'eau, quoi, à chaque fois.
Elle a disparu le 11 décembre 1987. En janvier, c'était plié pour la justice.
On a traité cette affaire, à l'époque, comme un vol de voiture.
Classer l'affaire Laville à peu près un mois après sa disparition, alors qu'elle n'est toujours pas retrouvée, ça paraît un peu dingue. C'est une manière de dire, bon, ce dossier-là, on le range dans un tiroir.
Écoutez, je vais vous dire franchement, je suis allée chez ma voisine, elle m'a ramassée, je suis tombée, je me suis évanouie.
Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle.
Je ne supportais pas ça. Je ne l'ai pas supporté. Parce que c'était la deuxième fois que ma fille disparaissait, en fait.
Pourquoi réellement on a refermé le dossier? Je ne sais même pas s'il y a une raison qui tient debout.
Mon mari avait l'habitude de dire « le chien ». D'un notable d'Auxerre aurait disparu, ils auraient tout mis en branle. Mais nous, nous venions de l'extérieur, c'était une gamine normale, pas bourgeoise, donc ça ne les intéressait pas, tout simplement.
Ah bah automatiquement, lorsqu'on ne trouve pas, on nous reproche, c'est tout à fait logique. Je ne pense pas qu'au niveau de l'enquête elle-même, non, parce que toutes les pistes ont été exploitées, tous les renseignements.
On a confiance en la justice, on se dit, ils sont là pour nous aider, pour nous épauler.
Sandra Laville, sœur d'Isabelle.
Et en fin de compte, on se rend compte que si vous ne posez pas les bonnes questions, si vous n'allez pas voir, si vous ne mettez pas les points sur la table, ils ne font rien, personne ne fait rien autour de vous.
Suite maintenant de l'affaire des disparus de Lyon, ces 7 jeunes filles dont on n'a pas retrouvé la trace entre 1977 et 1979.
Le suspect numéro 1, Émile Louis, interpellé hier à Draguignan, a avoué une partie des faits. Il serait bien impliqué dans certaines disparitions.
Il y a eu de nombreuses disparitions, notamment dans les années 70, qui sont les victimes d'Émile Louis.
Il va y avoir une enquête sur toutes ces histoires de disparus non élucidé. Ça va démarrer avec toutes ces disparues de Lyon et le premier cas non élucidé sur lequel ils enquêtent, c'est le cas Isabelle Laville.
Isabelle avait disparu dans la région d'Auxerre.
Alain Bert, avocat de la famille Laville.
Tout le monde pensait que cette disparition pouvait être imputable à Émile Louis.
À partir du moment où il y a d'autres disparus, il y a quelqu'un à un moment donné qui dit « Ah bah tiens, au fait, l'histoire Isabelle Laville qui dure depuis des temps et des temps et des temps, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas partie de ce lot-là ?»
Je n'y ai pas cru parce que Émile, lui, était un chauffeur qui s'occupait de jeunes filles handicapées. Ce qui n'était pas le cas d'Isabelle.
Émile Louis, qui a avoué avoir tué les 7 disparus de Lyon il y a plus de 20 ans, a habité Le Var entre 86 et son interpellation il y a 10 jours.
Problème à cette époque-là, Émile Louis n'est plus dans la région.
Il n'y avait aucun élément matériel permettant de rattacher en termes de date, d'éléments matériels, de circonstances, la disparition d'Isabelle à Émile Louis.
Derrière les disparus, expression qui concerne surtout les victimes d'Émile Louis, il y a toutes les autres disparues, retrouvées ou pas, dans Lyon.
L'affaire Émile Louis, ça a mis la lumière sur l'affaire Isabelle Laville.
En 2000, l'affaire piétine à nouveau. Mais l'enquête va rebondir de manière spectaculaire avec l'arrestation d'un homme en Belgique en juin 2003.
L'affaire Laville, elle commence véritablement en 2003 en Belgique.
Jeudi, ce forestier français expatrié est arrêté chez lui en Belgique, accusé d'avoir enlevé et tenté d'abuser d'une adolescente de 12 ans.
Michel Fourniret est interpellé en Belgique le 26 juin 2003 et mis en prison, c'est-à-dire en détention provisoire et préventive.
Je suis intervenu dans l'affaire Fourniret au titre de procureur général de la Cour d'appel de Reims.
Yves Charpenel, ancien procureur général de Reims.
Au moment où on arrête Michel Fourniret, on est pratiquement dans les 10 minutes alerté par les autorités belges qui nous disent « Tiens, voilà quelqu'un qui vient d'être arrêté après avoir raté un enlèvement de petite fille. Regardons de plus près. »
L'agression a été commise en plein jour et par ruse. Ce mode opératoire alerte les enquêteurs belges.
Il est détenu parce que les faits ressemblent à quelque chose de très grave, mais aucun élément, aucun aveu d'abord, aucun élément objectif permettant d'être sûr que c'était un enlèvement vraiment criminel et pas un comportement simplement inapproprié. On se retrouve avec l'hypothèse que quelqu'un d'extrêmement suspect quand même, mais qui ne parle pas, pourrait être mis en liberté.
Les policiers de Dinan, en Belgique, qui s'occupent de Michel Fourniret, s'occupent aussi de sa femme.
Alain Hamon, journaliste.
Ils l'entendent une fois, deux fois, trois fois.
Ils vont donc mettre en place une procédure qui était la sonorisation des lieux de rencontres familiales en prison. Et c'est en écoutant ce que se disent le couple Fourniret-Olivier qu'ils vont se dire qu'il y a quelque chose de particulièrement louche. Ils vont mettre une pression par des questions très précises et répétées à Monique Olivier.
Ils l'ont convoqué chez eux pour lui poser des questions. Je crois qu'ils l'ont entendu 90 fois. Et là, c'est du travail de flic, mais alors, hors pair. En 2004, à force de mettre la pression à Monique Olivier, un jour, elle est entendue une énième fois par la police judiciaire de Dinan. Et ce jour-là, elle dit « Bon, bah écoutez, j'ai des choses à vous dire, voilà. »
Monique Olivier révèle une série de meurtres.
Richard Desgenès, avocat de Monique Olivier.
sur une période de 87 à 90, on va dire. Elle donne des noms, quand elle les connaît, elle donne des lieux, des dates, et elle s'incrimine.
Selon la RTBF, la radio publique belge, l'épouse du forestier français Michel Fourniret, inculpée en Belgique pour des enlèvements de mineurs, l'a accusée de 9 meurtres d'enfants et de jeunes filles en France et en Belgique.
2 jours après, le 30 juin 2004, Michel Fourniret se retrouve devant le commissaire belge Fagnard et son adjoint. Et avant même qu'il lui pose la moindre question, c'est Fourniret qui dit « C'est vrai ». Et je vais vous donner le détail de toutes ces histoires. Une certaine Intel, une certaine Intel, une certaine Intel, une certaine Isabelle Laville, dans Lyon, c'était la première.
J'ai appris, j'étais sur l'autoroute et j'ai eu un appel téléphonique d'un journaliste. Moi, j'étais absolument abasourdi.
Alain Bert, avocat de la famille Laville.
J'ai téléphoné immédiatement aux époux Laville en leur disant il y a peut-être des aveux en prenant les précautions d'usage.
Ça a été le choc de notre vie de savoir que...
Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle.
Cet homme en Belgique qui avait été arrêté pour une tentative d'enlèvement sur une jeune fille avait avoué donc le meurtre d'Isabelle.
Les révélations de Michel Fourniret et Monique Olivier laissent les gendarmes belges stupéfaits. Ils auraient donc arrêté un tueur en série et sa complice. Pour en savoir plus, ils se penchent sur l'histoire de ce couple et découvrent qu'ils se sont connus plus de 15 ans auparavant, en France, alors que Michel Fourniret purgeait une peine de prison pour agression sexuelle.
J'ai examiné Michel Fourniret et Monique Olivier.
Jean-Luc Ployer, expert psychologue.
À la demande d'un magistrat instructeur de Charleville-Mézières, en 2004 et 2005. Le magistrat instructeur avait eu, à mon sens, l'idée assez pertinente de me demander, en fait, d'examiner quels sont les rouages du couple, si vous voulez, comment ils fonctionnent, en tous les cas, dans leur parcours criminel.
Dans les années 86-87, Michel Fourniret était détenu.
Richard Desgenès, avocat de Monique Olivier.
Pour des affaires d'agression sexuelle, il était en détention.
Michel Fourniret passait des petites annonces, hein, puisqu'il allait sortir de prison. Cherche une personne avec qui, effectivement, je peux refaire ma vie. Ça, c'était l'annonce officielle, si vous voulez, hein. Et elle, qui effectivement était intéressée, a répondu à l'annonce qu'il avait élaborée.
Monique Olivier, c'est une femme qui, avant de rencontrer Michel Fourniret, n'a pas de problème de délinquance ou criminel ou pathologie particulière. C'est une personne qui a été mariée, qui a eu 2 enfants, qui a travaillé, hein, très jeune, qui a une vie de famille sans histoire notable. Donc une vie normale, je dirais, au sens où rien de marquant.
Ils vont tisser des relations malsaines.
Alain Bert, avocat de la famille Laville.
Et ils vont, dans le cadre de leur correspondance, élaborer un véritable pacte criminel. J'ai jamais vu ça.
Il lui demandait d'être sa complice pour essayer de s'attaquer à des jeunes filles. Le 22 octobre 87, Fourniret sort de prison.
Elle était toute seule, pas de famille pour l'aider. Pas de travail à l'époque. Donc, il lui propose d'emménager avec elle. Et elle l'accompagne dans la maison familiale de Michel Fourniret à Saint-Cyr-les-Colons.
Dans ce qu'ils avaient organisé, Michel Fourniret et Monique Olivier, ils voulaient absolument que Monique Olivier repère une jeune fille qui lui ressemble quand elle était jeune, si vous voulez.
Il
Dans son esprit, Isabelle Laville devait la malheureuse correspondre à ce qu'était Monique Olivier à son âge. Et puis, ils vont jouer le scénario.
Donc, c'est Monique Olivier qui conduit et qui repère une jeune fille.
Et demande un renseignement. Isabelle Laville lui demande son chemin. Et Isabelle lui répond, c'est par là. Elle dit, monte, je te déposerai chez toi. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit au bord de la route un type avec un bidon d'essence qui fait du stop. Donc Monique Olivier s'arrête et qui lui demande de l'amener à une station essence. Là, encore une fois de plus, il n'y a aucune raison de se sauver de la voiture. Et c'est Fourniret qui monte à l'arrière. Voilà. C'est Fourniret qui monte à l'arrière et ils vont arriver à Saint-Cyr-les-Colons, leur lieu de résidence, où le crime va se dérouler. Il va abuser ou tenter d'abuser, on ne sait pas, d'Isabelle Laville, et puis il va la tuer.
On ne veut pas y croire, parce que ça, on se dit, on se demande par où elle en est passée, quoi.
Sandra Laville, sœur d'Isabelle.
On se dit, qu'est-ce qu'elle a souffert? Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été court? Est-ce que... Voilà, on n'a pas envie que la personne qu'on aime ait vécu quelque chose aussi dur, aussi terrible.
Ça faisait 17 ans qu'on était sans savoir. Et là, tout d'un coup, quelqu'un avoue.
Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle.
C'est difficile de faire la part des choses tout de suite. C'est difficile à comprendre le fait de savoir qu'elle devait être morte et d'espérer quand même. Vous savez, quand on parle de l'enfer, il est sur notre terre, hein. Il est sur notre planète, l'enfer.
Le plus important, après les aveux de la mort, de l'assassinat d'Isabelle Laville, c'est de retrouver son corps.
Il est évident que les parents ont envie de retrouver le corps et de lui offrir une sépulture sur laquelle on puisse se recueillir, qu'elle ne soit pas jetée comme un objet abandonné.
Quand il nous dit « Je sais où j'ai mis le corps d'Isabelle Laville ».
Yves Charpenel, ancien procureur général de Reims.
Il nous dit « Oui, mais ma mémoire flanche un peu et ça m'ennuie de vous donner des indications floues parce que sinon, vous allez être ridicule devant les médias. »
Ce qu'on voulait, c'était retrouver Isabelle. Puis bon, il n'avait pas du tout envie de nous dire où elle était.
Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est son sadisme, si vous voulez.
Jean-Luc Ployer, expert psychologue.
Notamment, avec son jeu... De ne pas dire où il a effectivement déposé tel corps ou tel corps, pour que les familles ne fassent pas leur travail de deuil, si vous voulez.
Ce qu'il aime, c'est faire les règles du jeu, c'est le petit poussé, quoi. Il sème des cailloux, et puis on arrive devant un mur.
Le mot, pour moi, qui résume peut-être le mieux psychologiquement Fourniret, c'est domination. La domination, c'est ce qui lui importe.
Michel Fourniret devrait arriver vers 13h à Auxerre, mais sa présence physique ne signifie pas qu'il accepte de coopérer pleinement avec la justice.
21 avril 2006, reconstitution de l'enlèvement et de la mort d'Isabelle Laville.
Alain Hamon, journaliste.
Fourniret fait son grand numéro. Bon, non... Non, je ne vais pas vous aider, tout le truc et tout. Enfin, ça dure pendant des heures et tout le truc et tout.
Jean-Pierre Laville va se retrouver face à Fourniret et il va lui parler, ils vont engager un dialogue.
Mon mari a dit maintenant, vous parlez ou vous vous arrêtez. Mais je ne veux pas vous entendre raconter votre vie. Enfin, mon mari était vraiment remonté contre lui.
Fourniret a dit qu'il allait tout faire pour l'aider à retrouver... parce qu'il était père lui-même, qui comprenait, etc.
Fourniret demande du papier et un crayon. Il dessine une route. Il dessine un bâtiment en hauteur. Il dessine un bâtiment plus bas à côté. Et il dit, voilà, c'est là que j'ai jeté la petite. Ça, c'est un transformateur électrique. Ça, c'est une espèce de petit hangar qui est à côté. Et puis, à côté du petit hangar du transformateur, il y avait un puits. J'ai jeté le corps dedans. Je fournirais, il faut nous en dire plus maintenant. Quelle route ? Quel village à proximité ? Et là, fournirait, terminé. À tel point que le procureur de la République ne trouve qu'une seule solution, c'est de publier ces informations-là.
Dans l'affaire Isabelle Laville, les indications parcellaires données par Michel Fourniret ne permettent pas de trouver l'endroit où il a enterré le corps de la victime. Le procureur de la République va alors jeter une bouteille à la mer. Un appel à témoins pour retrouver un puits au bord d'une route.
Bussy-en-Othe, qui est une petite bourgade, naturellement, avec beaucoup de forêts.
Evelyne Trecart, première adjointe à la mairie de Bussy-en-Othe.
C'est familial, tout le monde se dit bonjour, donc on se connaît tous. Au cours du mois de juin 2006, c'est notre ancien maire, M. Bernard Rativeau, qui a donc lu dans la presse locale les précisions que le tueur avait données. Ça a attiré l'attention de M. Rativeau, qui a donc pris contact avec le procureur pour lui dire « Je pense que le lieu, je l'ai reconnu. » C'est en 96 que le puits avait été comblé du fait de sa dangerosité vis-à-vis des enfants.
Décor bucolique pour une fouille macabre. C'est ici, au bord d'une plantation de merisier près de Bussy-en-Othe, que se trouve peut-être le corps d'Isabelle Laville. Un puits dans un transformateur avec un appentis. Exactement la description donnée par Michel Fourniret le 22 avril dernier.
Ils ont retiré 3000 seaux de gravats à la main. 3000 seaux de gravats.
Mon mari était là-bas, donc ils ont retrouvé une paire de bottes. Elle avait des bottes blanches. Bon, elle n'était plus blanche. Mais il m'a dit, mon mari me dit, il y avait des pompons. J'ai dit oui, bah ça y est, c'est elle. Et donc, ils ont nettoyé les chaussures, elles étaient blanches.
Le corps, on le découvre avec des choses pas très agréables à voir. Et ça, les parents le voient.
Il n'était pas bien quand il est rentré. Il n'était pas bien. Bon, Maître Bert était là, donc il n'était pas seul, quoi. Donc, non, c'est vrai que non, il a fallu quelques jours avant qu'il puisse de nouveau respirer comme il faut.
Le moment le plus difficile, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le jour où on découvre le corps.
Alain Bert, avocat de la famille Laville.
Parce que là, c'est la fin de l'espoir. Alors c'est sûr, c'est le début de la vérité, mais c'est la fin de l'espoir.
J'ai pleuré parce que un chien crevé, et il l'a jeté dans un puits, quoi. J'ai trouvé c'est immonde, c'est difficile à accepter, quoi.
Est-ce qu'elle a trouvé le repos ? Est-ce qu'il y a plein de choses qui viennent ?
Sandra Laville, sœur d'Isabelle.
Il y a plein de questions qui se posent tant qu'on n'a pas de réponse.
Quand nous avons récupéré ces ossements, nous l'avons fait incinérer et mis dans le jardin, ce qu'ils appellent le jardin du souvenir.
Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle.
Mais en réalité, pour nous, sa tombe se trouve là-bas, là où elle est restée pendant des années ensevelée. C'est là qu'est sa tombe.
Justice, c'est demain que s'ouvre dans les Ardennes le procès de Michel Fourniret et de son épouse.
Michel Fourniret est renvoyé devant les assises pour 7 meurtres. Monique Olivier, son épouse, est poursuivie dans 5 cas au moins.
Face à eux, les familles de victimes, elles attendaient cette confrontation depuis parfois plus de 20 ans.
On a une espèce d'imaginaire qui se met en place. On sait que c'est un tueur en série, on sait qu'il a tué énormément de personnes, etc. Des jeunes femmes, voilà, on appréhende un peu les choses.
J'allais voir en face les deux personnes qui m'ont volé une partie de ma vie. Je m'attendais vraiment à voir un monstre. Je l'ai trouvé minable. Au fur et à mesure des j'ai vu un petit bonhomme. Vous savez, c'est comme l'histoire de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. C'était lui. C'était un petit minable qui s'imaginait être important.
Quand on les voit, on se dit, c'est dur de s'imaginer qu'en fin de compte, des tueurs en série ou des violeurs ou des personnes comme ça ressemblent à tout le monde. C'est plus ça qui m'a choquée sur le moment, c'est me dire, mais purée, comment on peut savoir qu'ils sont méchants? Ils ressemblent à tout le monde. C'est des personnes qu'on croise tous les jours dans la rue.
Ce 27 mars 2008, première journée de procès, Fourniret, il arrive avec une pancarte en disant « pas de huis clos, pas de parole ». Genre de dire « je parlerai pas s'il n'y a pas de huis clos ». Alors évidemment, tout le monde s'est indigné de son comportement. Et la cour a refusé le huis clos. On ne peut pas imaginer qu'une affaire comme celle-ci se déroule à huis clos. Voilà, le procès s'est déroulé en grande partie sans que Fourniret intervienne.
Vous savez, quand vous entendez cet individu qui dit « Oh, je suis sorti, je suis parti à la chasse, je ne savais pas ce que je ramènerais », en parlant de fillettes, de jeunes femmes, c'est très dur à supporter. C'est très dur à supporter. Parce que c'est des êtres humains. Peut-être plus humain que lui, d'ailleurs. Qu'il a chassé comme ça.
Au procès de Charleville, j'ai dit que c'était Monique Olivier qui avait donné à Michel Fourniret son permis de tuer, si vous voulez.
Jean-Luc Ployer, expert psychologue.
J'ai découvert qu'elle y trouvait également un intérêt. De toute façon, ce couple-là a fonctionné pendant des années. Si l'un et l'autre n'y trouvaient pas un intérêt personnel, c'est comme deux muscles en synergie, si vous voulez. L'un alimente l'autre, et réciproquement.
Savoir pourquoi Monique Olivier devient complice de Michel Fourniret, c'est toute l'histoire du dossier qui dure depuis maintenant 15 ans.
Richard Desgenès, avocat de Monique Olivier.
Elle a une capacité à ne pas vouloir voir les choses et à mettre l'empathie de côté. Que beaucoup de personnes n'ont pas.
Michel Fourniret et Monique Olivier viennent d'être condamnés. La cour d'assises des Ardennes a rendu son verdict. Ils sont conclus.
Le moment le plus fort du procès, c'est au moment du délibéré, parce que Monique Olivier a été condamnée à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Et Fourniret a été condamné à une peine exceptionnelle, qui est une peine de réclusion criminelle à perpétuité, sans aucune possibilité d'aménagement de la peine. C'est ce qu'on appelle une perpétuité-perpétuité. C'est-à-dire qu'il mourra en prison.
Vous mettez en couple, vous mariez, votre sœur n'est pas là, vous avez les Noëls, les anniversaires, vous avez un enfant, elle n'est pas là. Pour les communions, elle n'est pas là, pour les baptêmes, elle n'est pas là. Tout ça, c'est dur par moment.
Sandra Laville, sœur d'Isabelle.
Pour le moment, ça, si vous voulez, début décembre, effectivement, j'ai eu une mauvaise période, comme tous les ans d'ailleurs. Pour la fête des mères, pareil. Mais après, je me remets... Vous savez, comme je vous ai dit, mes petits-enfants m'apportent beaucoup. Je vis pour eux.
La famille d'Isabelle Laville a réussi malgré tout à se reconstruire, notamment parce que le meurtrier a été jugé et condamné. Mais ce n'est pas le cas pour tous les proches des victimes de Michel Fourniret, qui a emporté nombre de ses secrets dans la tombe. Il est mort le 10 mai 2021, à l'âge de 79 ans, après avoir été hospitalisé en urgence à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. En décembre 2023, Monique Olivier a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans, pour complicité dans l'enlèvement, la séquestration et la mort d'Estelle Mouzin, de Johanna Parich et de Marie-Angèle Domès. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Lucie Lemettet. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.